Outubro. Estão a sintonizar Rádio Gráfico.
Moi, je parle pas portugais comme ça, hein, moi non. Mais je ne sais pas en fait. Techniquement, c'est que Graphite aime tellement Vibrato S Enrique qu'on le passe en boucle. Eh bien non. Entre 12h et 13h. C'est Biotine en direct sur l'antenne de Graphite. Ça y est, nous sommes en direct aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Noël et je suis avec Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Attends, c'est normal parce que...
Bonjour Jean-Noël, on ne m'entend pas.
C'est normal parce que je suis en train... Tu sais, c'est toujours un peu acrobatique entre oui. deux émissions. Je te rappelle, je ne sais pas si tu es au courant, Carole, il y a des consignes sanitaires en France qu'il faut appliquer. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Et rapidement, en fait... rapidement.
Et en fait, ce n'est pas simple parce que du coup, on fait pas mal de choses en 2 minutes 30. Toi, on est quand même assez fort. Mais c'est quand même pour le bien de tous. Bonjour, bienvenue, c'est Biotine, l'émission de science. Tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Sur l'antenne, en direct, sur le site internet graphite.net. Et comme j'ai les masques, c'est pas évident en fait à parler, je te confirme.
On verra combien de temps tu tiens. On a décidé d'opter pour le style France Inter aujourd'hui. Avec le masque.
Avec le masque.
Masque chirurgical qui donc laisse passer le son, c'est le meilleur masque pour parler à la radio. Hein.
Tout à fait. Donc on peut parler, mais on ne peut pas respirer.
Oui, pas respirer, c'est autre chose.
Ah ben oui, mais il faut que je fasse les deux en même temps. Sur graphite.net, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé. Et en différé, on aura les podcasts. Et les podcasts, on aura bien sûr du son et...
De l'image.
Et oui. Est-ce que oui, maintenant, la radio, ça ne suffit pas? On aura aussi un peu d'image maintenant, mais tu sais que maintenant, comme l'a expliqué Enrique tout à l'heure, il va y avoir pas mal de nouveautés dans les prochains moments, justement avec Graphite, où on aura maintenant un peu de vidéo dans ce studio. Ce qui du coup m'explique pourquoi tu passais du temps à te maquiller dans la voiture quand je te
ramène. Exactement, en fait, je savais déjà qu'il y aurait la vidéo, qu'elle allait arriver. J'étais en avance en fait.
Mais oui, ouais. Je ne comprenais pas l'idée, maintenant j'ai tout compris.
Et maintenant voilà, je suis prête, il n'y a plus qu'à mettre la vidéo.
Et vous nous écoutez aussi bien évidemment sur la bande FM 94.9. Pour ceux qui nous écoutent, nous sommes en direct, vous avez donc la possibilité de pouvoir nous envoyer des messages par SMS 06 95 065 026 06 95 065 026. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre. J'ai l'impression que je respire énormément, je ne sais pas pourquoi.
Tu vas augmenter ta capacité pulmonaire, tu vas voir.
Ah bah écoute, je vais pouvoir devenir un nageur professionnel du coup. Journée mondiale contre la peine de mort aujourd'hui le 10 octobre.
Ça commence bien.
Ouais, j'aime bien mettre les choses au clair. Au niveau de l'éphéméride, le 10 octobre 1913, c'est la fin du percement du canal de Panama. Et en 1957, c'est l'incendie de Windcastle, ce qui s'est produit dans la première centrale nucléaire britannique en 1957. Au niveau de l'éphéméride, le 10 octobre 1731, c'est la naissance d'Henry Cavendish, physicien et chimiste britannique. Il est notamment célèbre pour ses travaux sur la mesure de la constante de gravitation. Et avant tout le monde... Il a défini les chaleurs de masse, les chaleurs également latentes. Il a eu l'idée de la conservation de l'énergie. Nous sommes au XVIIIe siècle, il ne faut pas l'oublier. Avant Coulomb, il a étudié les forces électrostatiques. Il a observé l'électrisation superficielle des conducteurs. Il a défini la capacité électrique. Il a pressenti la notion de potentiel électrique. Il a, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue électrique, essentiellement apporté pas mal de choses. Il a conçu la résistance électrique avant Ohm. Ohm, ce qui est quand même le nom qu'on a conservé pour parler de résistance électrique. Mais non, c'est Cavendish. Donc on se dit que ce mec, il doit être quand même sympa. Et ben finalement, Carole, j'ai quand même pensé à toi quand on apprend que finalement, aux yeux de ses contemporains, cet homme était totalement excentrique. En fait, il refusait de parler aux femmes, même de les voir.
Et je ne ferai pas de commentaires.
Et donc en fait, avec ses servantes, il ne communiquait qu'à des bouts de papier parce qu'il ne voulait pas les voir, donc... Il transmettait les papiers pour transmettre justement ses ordres. Et il menaçait même de les licencier si elles essayaient de le voir. Tu vois, donc, elles ne voulaient pas le voir. Et nous non plus. Et il portait toujours les mêmes habits. Et il s'est servi pendant 30 ans du même chapeau. Enfin, il avait quand même assez excentrique, c'est le mot juste. Il a toujours refusé de se laisser peindre également. Si bien qu'on n'a aucun portrait officiel de lui. Il y a juste une esquisse qui a été effectuée au cours d'un dîner à la Royal Society d'Henry Cavendish, né le 10 octobre 1731. Décès de l'entomologiste allemand Ludwig Helwig, qui est mort le 10 octobre 1831. Ses travaux en taxinomie des insectes, parce que c'est un entomologiste allemand, donc on parle d'insectes, ses travaux sont quand même renommés, sont à l'origine des collections entomologiques de l'actuel musée d'histoire naturelle de Berlin. Il est également l'inventeur d'un jeu de guerre, de Kriegspiel, Kriegspiel. Alors, je ne parle pas du tout allemand, donc j'ai sûrement très mal prononcé le Kriegspiel. C'est une variante un petit peu du jeu d'échecs qui a eu beaucoup de succès en son temps. Voilà, 10 octobre, décès de John Helvig en 1743. Ce sont des scientifiques du 18e siècle que nous évoquons aujourd'hui. En fait, pour cette émission... toujours autour du 10 octobre. Il y a deux grandes actualités qu'on évoque tous les ans. Si vous êtes fidèle de Graphite, vous connaissez un petit peu pour l'émission Biotine l'actualité du mois d'octobre. Ce sont les prix Nobel qui ont donc été annoncés cette semaine et on va faire le point sur les prix Nobel. Et c'est aussi la fête de la science. Et donc, c'est un petit peu particulier parce que cette année, pour la première fois depuis plusieurs années, nous n'avons pas de fête de la science physique, c'est-à-dire une fête de la science qui accueille physiquement les visiteurs au sein des locaux, notamment ici à l'Université de Technologie de Compiègne. Et tous les ans, Graphite nous permet voilà, d'animer pendant deux heures une émission en direct de la fête de la science où on fait passer un petit peu au micro certains scientifiques pour nous expliquer un petit peu ce que l'on peut voir au cours de cette manifestation et par la même occasion essayer de comprendre un petit peu leurs travaux. Et donc, bon, ça ne se fait pas physiquement, mais ça se fait virtuellement, en tout cas pour l'Université de Technologie de Compiègne. Vous avez sur le site de la Fête de la Science de l'UTC tout un programme qui vous permet de visionner justement soit des expériences, soit des témoignages. Donc ça va être une Fête de la Science un peu virtuelle qui sera mise en place. Donc pas d'émission spécifique cette année, notamment avec Peggy, qui te faisait un petit peu d'infidélité. Je te fais un peu d'infidélité, Carole. Et oui, c'était Peggy qui...
très, très sympathique. Et c'était super quand on avait pu partager une émission ensemble, d'ailleurs, pour les 10
ans de Graphite en 2018. Ça passe déjà... Oui, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ça fait déjà 2 ans, tu m'étonnes. Mais voilà, donc Peggy, que j'embrasse si elle nous écoute, elle nous écoute très souvent. Pas d'émission en direct de la Fête de la Science, mais je ne peux que vous inciter à quand même vous renseigner et voir quelles sont les manifestations de la Fête de la Science qui existent près de chez vous. Il y a à la fois des animations virtuelles, mais aussi des animations physiques. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même des manifestations qui sont maintenues selon des protocoles sanitaires stricts que l'on doit respecter, bien évidemment, mais ça vous permet quand même d'être à la rencontre de la communauté scientifique et de pouvoir voilà, s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans les laboratoires, de faire des expériences, d'apprendre et de fêter la science. Et franchement, 2020, on ne peut que se féliciter de pouvoir à un moment fêter la science. Parce que cette année 2020, franchement, elle n'est pas finie en plus. On ne sait pas encore ce qui nous attend, il nous reste encore 3 mois. Mais il n'empêche que jusqu'à maintenant, la science a été un petit peu au cœur de toutes nos préoccupations, notamment avec cette épidémie de Covid-19. Et du coup, le fait d'avoir une manifestation qui nous permet à un moment de pouvoir rencontrer cette communauté scientifique, ça va nous permettre de prendre conscience un petit peu de ce qu'est une démarche scientifique. Et notamment de comprendre qu'il faut du temps. Je n'arrête pas de vous le dire dans cette émission, notamment depuis le début de cette épidémie. Il y a un temps de notre société, un temps médiatique, un temps de l'instantanéité. Et il y a un temps de la science. Et à un moment, il va falloir admettre que le temps de la science n'est pas celui qui va nécessairement nous convenir, parce que nous, on a une question et on veut une réponse tout de suite. Eh bien, la science va prendre son temps. Et ça, justement, ce genre de manifestation, de vulgarisation, nous permet de comprendre un petit peu comment travaille la communauté scientifique. Elle pose des questions, elle pose des hypothèses, elle va essayer de les tester. Elle va aboutir à des résultats qui ne sont pas toujours concluants. Il faut recommencer et ainsi de suite. C'est ce qui est en train de se passer, il ne faut pas se leurrer, pour la Covid-19 en ce moment. C'est-à-dire qu'on entend un petit peu tout et son contraire parce que la science, avec un grand S, n'a pas encore donné toutes les explications. Et donc, les scientifiques, avec certains des petits S, eux, se permettent de prendre la parole et de dire un petit peu... tout et son contraire. Je dirais pas tout et n'importe quoi, je dirais tout et son contraire. Et donc, c'est très difficile ensuite de se faire une opinion et d'essayer de comprendre. Il y a eu... très récemment, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion justement de cette pandémie par le gouvernement français. Et il y a eu l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye qui avait dit, entre autres, et je trouvais que c'était intéressant, elle dit on est face, je reprends un peu, je reprends pas mot pour mot c'est les termes exacts, mais c'était un petit peu nous sommes en manque d'une culture scientifique. Je pense que malheureusement le problème il est là, c'est-à-dire que à la fois les politiques, mais aussi les médias et également le grand public, donc les citoyens, donc le peuple, ne sont pas pourvus d'une grande culture scientifique, si bien que il est difficile de pouvoir prendre des décisions quand on est politique et de pouvoir comprendre et accepter ce qui se passe quand on est un simple citoyen. Et du coup, le flot d'informations qui, lui, ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire il n'y a pas eu un confinement de la bêtise, et c'est fort certain. Dommage. Et donc, du coup, on est constamment face à un flot d'informations contradictoires qui fait qu'on est très dans une situation assez difficile pour pouvoir se projeter. Donc la fête de la science va vous permettre, profitez-en, c'est encore cette semaine un peu partout en France, de pouvoir vous projeter dans justement cet univers de la recherche scientifique et de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. La science prend son temps. Oui, et c'est tant mieux, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Ce n'est pas en 2020 que ça changera, quoi qu'il en coûte. Carole, on va faire le point sur les prix Nobel ?
Tout à fait, parce que c'est aussi l'actualité en ce moment.
Alors, juste pour, avant de lister un petit peu les différents prix qui ont été annoncés cette semaine, j'ai écouté cette semaine un petit peu l'histoire de la naissance des prix Nobel. Je ne la connaissais pas, cette histoire. Je me suis dit, ça peut être intéressant un petit peu de comprendre pourquoi le chimiste et fabricant d'armes suédois Alfred Nobel, pourquoi il a créé le prix Nobel à son nom. En fait, on va se remettre à l'époque. Il est dépositaire de plus de 350 brevets et il est notamment l'inventeur un peu notoire de la dynamite qui va garantir son succès financier, mais qui ne va pas garantir, en tout cas à l'époque, sa gloire. Et en fait, en 1888, il y a une nécrologie qui est publiée dans un journal. Donc, tu vois, même déjà au 19e siècle, c'était déjà le cas. On annonçait la mort des gens alors qu'ils étaient toujours pas mort, et c'était son cas, et il y a une nécrologie dans un journal français qui aurait annoncé quelque chose du style un peu le marchand de la mort est mort. Et en fait, lui, il lit ce journal, il lit sa propre nécrologie, ça doit faire un drôle d'effet, en fait,
ça
quelque part.
Ça doit faire bizarre, je souhaite
et,
à personne.
Et il se rend compte que finalement, s'il meurt, l'image qui va rester de lui, une image pas nécessairement glorieuse, et ça va le bouleverser un petit peu, et donc il va décider 2 ans plus tard de céder la quasi-totalité de sa fortune pour la création d'un fonds qui va récompenser les personnes ayant rendu les plus grands services à l'humanité. Et donc, il va fixer 5 catégories: chimie, littérature, médecine, paix et physique. Et lui, il ne souhaite pas mettre les mathématiques parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'application suffisamment pratique pour pouvoir justifier la remise d'un prix. C'est pour ça qu'il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques en tant que tel. Il y a aussi cette rumeur qui est que sa femme l'aurait trompé avec un mathématicien et donc en se vengeant, il a dit qu'il n'y aura pas de prix Nobel de mathématiques.
Je ne connaissais pas.
C'est la petite histoire, mais
C'est
le voici de l'époque, toi. Mais en fait, non. C'est l'idée que c'est que les mathématiques sont plus un outil, quelque part, qu'autre chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et donc, du coup, dans un testament qui va établir la création du fonds Nobel, eh bien, Alfred Nobel s'est chargé de désigner les institutions responsables de la sélection des lauréats. Et donc, cette semaine, on a eu Cocorico, je vais dire, pardon, une Française, entre autres,
qui a été récompensée, en effet. Il s'agit du prix Nobel de chimie. Et donc, elle n'a pas été récompensée toute seule. C'est 2 femmes. Alors, c'est vraiment un événement assez incroyable qui ont été récompensées, en fait, pour la découverte des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Alors, ça a été relayé dans la plupart des médias. Là, je me suis appuyée sur un article de Futura Science, donc paru très récemment, puisque le comité Nobel vient tout juste d'attribuer à Emmanuelle Charpentier, donc une Française, conjointement avec Jennifer Doudna, une Américaine, ce prix Nobel. Alors, je ne sais pas, Jean-Noël, si tu savais que jusqu'à présent, seulement 5 femmes sur 180 lauréats depuis 1901 avaient été récompensés par un prix Nobel de chimie. Alors, pour tous les prix Nobel,
de chimie, non, oui.
Voilà, je ne connais pas le nombre, mais je pense qu'il est assez faible également. Donc, il y en a très, très peu qui ont été récompensés. Donc, aujourd'hui, c'est la toute première fois que deux femmes se voient conjointement attribuer cette récompense suprême. Alors, Emmanuelle Charpentier, pardon, qui a été jointe par téléphone au cours de la conférence de presse donnée par le comité Nobel, elle a commenté en disant qu'elle espérait que cela enverra un message positif et fort aux jeunes femmes qui envisagent une carrière scientifique. Et on ne peut d'ailleurs qu'inciter les jeunes filles à s'intéresser donc à ces métiers-là, qui sont encore trop fermés parce que pas associés à des modèles féminins, hein, justement, et encore trop peu relayés, justement, pour les femmes. Donc, c'est un super message et on peut espérer que, justement, ça fasse encore bouger les choses dans ces domaines-là. Alors, pour en revenir maintenant plus précisément aux ciseaux génétiques, de quoi s'agit-il ? On en a parlé de nombreuses fois en fait dans l'émission au travers de certaines recherches, mais en fait c'est ce qui permet maintenant aux chercheurs de modifier l'ADN des animaux, des plantes et des micro-organismes avec justement une précision assez incroyable et dans un temps record. Alors c'est ce qui révolutionne actuellement les sciences moléculaires de la vie, ça ouvre de nouvelles voies à la sélection végétale ou encore ça contribue à des thérapies anticancéreuses innovantes. On pourra peut-être d'ailleurs réaliser un rêve, guérir certaines maladies héréditaires. Donc, comme le commande la tradition des prix Nobel, eh bien, cette découverte elle apporte un grand bénéfice à l'humanité. Donc, c'est pour cette découverte que les deux chercheuses ont été récompensées. Elles sont parvenues en effet à recréer donc les ciseaux génétiques de l'une des bactéries les plus nocives pour l'humanité dans un tube à essai et à simplifier les composants moléculaires de ces ciseaux afin qu'ils soient plus faciles à utiliser. Dans une expérience historique, elles ont ensuite reprogrammé ces ciseaux génétiques. Dans leur forme naturelle, les ciseaux reconnaissent l'ADN des virus, mais Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna ont prouvé qu'ils pouvaient être contrôlés afin de pouvoir couper n'importe quelle molécule d'ADN à un site prédéterminé. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile, c'est pouvoir couper exactement à l'endroit où on veut. Parce qu'on avait découvert au départ des techniques permettant de couper l'ADN, mais voilà, comment le commander, savoir exactement, puis après pouvoir insérer des gènes, etc. Donc en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'en étudiant le système immunitaire d'une bactérie, Streptococcus pyogène, eh bien, dans l'espoir d'abord de développer une nouvelle forme d'antibiotique, elles ont fait une observation étrange. Une molécule inconnue, le traceur ARN, je vais l'appeler comme ça, c'est une molécule qu'elles identifient comme un constituant d'un ancien système immunitaire des bactéries mis en place par la nature pour désarmer les virus en clivant leur ADN. Pour mieux comprendre, il faut savoir que des chercheurs avaient déjà pu observer que le matériel génétique des bactéries, très différent, et même d'autres micro-organismes, des archées, présentent des séquences ADN répétitives, appelées CRISPR, qui sont étonnamment bien conservées. Le même code apparaît encore et encore, mais entre les répétitions, en fait, il y a des séquences uniques qui diffèrent et qui semblent correspondre au code génétique de différents virus, comme une mémoire de l'infection qui aiderait à protéger les bactéries. Mais alors, personne ne sait comment cela fonctionne. Les chercheurs soupçonnent qu'intervient un mécanisme nommé interférence par ARN, un phénomène dont la découverte a valu à Andrew Fayer et Craig Mello le prix Nobel de physiologie et de médecine en 2006. Et un phénomène justement sur lequel travaillait Jennifer Doudna, d'où après l'association donc entre les deux chercheuses. Jennifer Doudna, elle remarque des gènes spéciaux, donc des gènes CRISPR associés, abrégés en Cas, très similaires aux gènes qui codent pour des protéines déjà connues et qui sont spécialisées dans le déroulement et la découpe de l'ADN. C'est ainsi que l'ADN des virus est clivé par les bactéries. Parfois selon un mécanisme complexe qui nécessite l'intervention de nombreuses protéines, parfois selon un mécanisme plus simple. Donc là, moi j'ai regardé, il y a pas mal de jolis schémas qui peuvent vous expliquer ça de manière assez illustrée pour qu'on comprenne mieux, parce que c'est quand même extrêmement technique. Alors, à ce moment-là, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna imaginent pouvoir déclencher le mécanisme in vitro. Grâce à de l'ARN CRISPR, nécessaire pour identifier l'ADN d'un virus, et à Cas9, le ciseau qui coupe la molécule d'ADN. Mais il leur faudra y ajouter cette découverte faite par la biochimiste française, et bien justement, donc Emmanuelle Charpentier, le traceur ARN. Non contente d'avoir ainsi identifié un mécanisme fondamental chez une bactérie extrêmement nocive pour les hommes, et bien elles veulent aller plus loin, c'est-à-dire simplifier leur ciseau génétique pour qu'ils coupent l'ADN à l'endroit qu'elles auront déterminé. Elles parviennent à fusionner le traceur ARN et le CRISPR ARN en un ARN guide, grâce auquel elles découpent un gène en 5 endroits différents. Très vite, après la publication de leurs résultats, donc ça c'était en 2012, plusieurs équipes s'emparent de l'outil. Modifier les gènes d'une cellule, d'une plante ou d'un organisme est désormais presque à la portée de tous. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a relayé quand même dans de nombreux articles et qu'on citait hein, justement ce CRISPR-Cas9. Eh bien, au laboratoire, les chercheurs utilisent les ciseaux génétiques donc développés par les deux chercheuses pour mieux comprendre le fonctionnement des gènes et leurs interactions. Sur le terrain, des chercheurs sont déjà parvenus à modifier les gènes du riz de manière à ce que celui-ci absorbe moins de métaux lourds du sol ou à créer des cultures qui résistent mieux à la sécheresse. D'autres tentent d'exploiter les ciseaux CRISPR pour traiter la maladie de Huntington par réparation de gènes. Donc c'est assez fascinant en fait la voie que ça ouvre hein, dans ce domaine de la recherche, mais il faut bien garder aussi à l'esprit que la puissance de cet outil pourrait être utilisée de manière moins bien intentionnée. Moi je me souviens qu'il y avait aussi eu des recherches chinoises hein, qu'on avait évoquées sur ce sujet-là, pour créer par exemple des embryons génétiquement modifiés. Et ça nous met face à de nouveaux problèmes éthiques à résoudre. Alors il y avait un peu un débat qui était lancé là-dessus à la fin des différents articles. Et donc je vais conclure avec ce qu'a dit Emmanuel Charpentier. Mon seul objectif est de servir la science. Cette science qui nous montre les plus beaux côtés de la nature, qui nous permet de percer tous ces mécanismes que nous pouvons ensuite exploiter pour aider l'humanité. Espérons que ce soit plutôt cette voie-là qui soit empruntée que d'autres.
En fait, ce prix Nobel de chimie 2020, il est intéressant sur plusieurs titres. Déjà, tu l'as dit, on récompense deux femmes relativement jeunes. Alors, elles ont oui. 51 ans, Emmanuel Charpentier. Alors, je dis relativement.
C'est jeune dans le domaine
pour
et
un prix
pour
Nobel,
être récompensé, oui.
Pour un prix Nobel, c'est quand même relativement jeune. Et tu l'évoquais tout à l'heure, il faut aussi un petit peu susciter des vocations chez les filles à s'engager dans les filières scientifiques. C'est ça qui est intéressant. Donc, elles vont devenir des modèles aussi. C'est
tout à fait.
Quelque chose qu'il faut suivre. Et juste pour dire que la fête de la science que j'ai évoquée tout à l'heure, l'une des finalités, c'était aussi de permettre aux jeunes de découvrir des métiers dans le domaine scientifique au sens large. Mmh. Et donc, du coup, il faut susciter des vocations. Et c'est en rencontrant et en discutant qu'on peut se dire, tiens, ça peut m'intéresser. Il n'y a pas d'autre... Voilà, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi que la science fasse, ouvre ses portes et la fête de la science se permettait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu l'as dit, cette technologie CRISPR, on en a très souvent entendu parler dans cette émission, parce que il y a parfois aussi cette image de l'apprenti sorcier dans son garage, qui, mais c'était même un article qu'on avait évoqué, je crois que c'était aux États-Unis, il me semble, je le dis de mémoire, qui voulait essayer de trouver une thérapie pour son fils qui était malade. Et donc, dans son garage, il avait utilisé cette technologie, il avait bidouillé des trucs, ça n'avait abouti à rien. Mais ce qui était fort, c'était de se dire que finalement, l'apprenti sorcier, chez lui, sans aucun contrôle, des choses avec une technologie qui mériterait justement un contrôle. Donc c'est le fait de mettre en avant maintenant et de récompenser cette technologie qui est extraordinaire, d'un point de vue médical, technique, c'est extraordinaire, il va falloir être très vigilant. Et évidemment,
ça ouvre un débat éthique de toute façon depuis déjà quelques années et c'est évident que tout ne sera pas possible. Bon, de toute façon, encore une fois, c'est pas non plus facile à utiliser comme une simple recette de cuisine. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut quand même des installations assez sophistiquées. Mais c'est sûr que par contre, il faudra faire attention que certaines équipes ne s'en emparent pas pour ensuite aller contre des règles de la bioéthique. Enfin, il faut définir un cadre, ça c'est évident.
Bien sûr. Et la troisième chose, c'est... je n'ai pas assez étudié cette question cette semaine, mais elle dit également, elle explique, elle est aujourd'hui en Allemagne.
Oui.
Elle est l'Institut Max Planck de biologie, qui est un institut très renommé en Allemagne.
Et Jennifer Doudna, elle est en Californie. Je resitue, c'est vrai que je n'ai pas précisé.
Et en fait, ce qu'elle explique... Alors, je ne veux pas, dénaturer son propos, mais quelque part, elle explique que... Elle ne pouvait pas rester en France parce qu'elle n'aurait pas nécessairement les moyens, on ne lui aurait pas attribué les moyens pour pouvoir développer justement ces travaux de recherche. Et donc elles sont parties, elle est partie. Et elle est partie en Allemagne, dans cet institut Max Planck, qui est un institut qu'on évoque très rarement finalement dans cette émission, mais qui a une
renommée.
Bien sûr, c'est pas du tout... Elle n'est pas là dans un garage...
Non, elle n'est pas dans un garage.
non. Mais ça pose aussi question de la recherche française,
bien sûr,
qui fait que finalement... Alors, on est très content qu'Cocorico, comme je disais, oui, c'est une Française qui a été récompensée, mais finalement, c'est pas nécessairement un laboratoire français derrière, ou une équipe de recherche française. Et ça pose aussi question. Je trouve que, franchement, ce prix Nobel de chimie, il y a plein de choses qui tournent autour sur des sujets d'actualité, de société, qui font que il faut vraiment en profiter pour pouvoir enfin poser les bases d'un débat. Mmh. Sauf que, bah, écoute, c'était, ça date de mercredi, puis on est déjà passé à autre chose, évidemment, parce qu'il faut que ça aille vite. Mais je trouve ça dommage. J'ai été très surpris par les articles que l'on avait, parce qu'on sentait que ça voulait aborder des sujets, et j'ai peur que, en fait...
On verra. Non, mais de toute façon, c'est sûr que derrière, c'est vraiment un énorme sujet, celui des financements pour la recherche, notamment en France. C'est un sujet qui est...
Ça aborde plein de sujets qui sont venus en parallèle. C'est-à-dire, les autres prix Nobel qu'on va évoquer, bon, très bien, prix Nobel, machin, il a fait ça, point. Là, pour Emmanuel Charpentier, il y a eu plein d'articles tout autour, en fait, parce que, du coup, c'était intéressant de montrer que la recherche scientifique, en France ou ailleurs... Eh bien, elle est aussi confrontée à ces problématiques-là. Et donc, du coup, il va falloir peut-être aussi se poser des questions, et notamment en France. OK, on a évidemment des instituts de recherche très importants, oui, mais...
On a aussi des très, très bons chercheurs, mais c'est vrai que ce n'est pas nouveau. On observe que, justement, ils vont à l'étranger pour pouvoir continuer leur carrière et avoir des carrières à la hauteur de ce qu'ils ont envie de faire, hein, c'est sûr.
C'est fort dommage. 06 95 065 026... Si vous souhaitez réagir en direct, 06 95 065 026. Et aujourd'hui, je vous demande une mobilisation, mesdames, messieurs, chers auditeurs, pour liker la page Facebook de Graphite. Pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, on a quand même gagné un like, s'il te plaît.
J'avais pas vu.
Ah oui. Si. On a un nouveau compteur dans le studio qui nous donne en instantané, justement, le nombre de likes de la page Facebook. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la page Facebook. En fait, n'hésitez pas à parler des programmes de Graphite, de cette émission également. Ça nous encourage également à poursuivre.
Tout à fait. À donner le meilleur.
Et à donner le meilleur, évidemment, rien que pour vous. Il est 12h29 parce que c'est déjà le milieu de l'émission et ça passe à une vitesse. Donc on va écouter un petit titre, ce qui va nous permettre de pouvoir reprendre notre souffle.
Ça peut pas être ça. Non, tout va bien.
Et on continue à parler des prix Nobel. Et si on a le temps, on parlera aussi de Donald Trump, parce que l'actualité
est riche en
internationale,
ce moment. Oui, internationale.
On ne s'ennuie pas. On va demander à la direction de Graphite de nous accorder 4 heures aujourd'hui pour faire l'essentiel de l'actualité, si c'était possible. Allez, on écoute un petit titre et on se retrouve juste après.
Et puisque je te dis qu'elle baise les Anglais, c'est connu. Écoute, Alain. J'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on aura calvé le petit doigt, je te dis.
Hey girl, les Anglais disent. I need you. Mais ils ne savent pas dire je t'aime comme nous. Ils préfèrent les rires à genoux. Oh, à genoux. Hey girl, les Anglais disent. Ils ne savent pas dire l'amour comme nous. Ils préfèrent les hello girl, they love me. I'm John Lennon, they love me. Thank you.
pas d'avenir à Chelsea. Ici, il y a ce bon vieux Eddie qui vous apprendra toutes les ficelles d'un French kiss à Paris.
C'est ça ce qui se passe à la sortie avec ces fameuses anglaises, Carole.
Je sais pas, mais il faut que tu me rebranches. Ben
ah
oui,
mais jamais.
Attends. Moi, je suis déçue. J'attendais. En plus, je pense qu'il est 12h34 hein, sur Graphite. Presque. 33-34.
34 piles.
Le
là.
Fameux, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps.
Vous nous écoutez sur graphite.net, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, sur la bande FM 94.9. Vous nous écoutez en direct sur Internet ou en différé grâce à la récupération des podcasts. Vous nous suivez sur Facebook et vous pouvez liker la page Facebook de Graphite. Vous allez pouvoir nous voir
oui.
en podcast, mais pas en direct.
Pas en direct, mais plus tard.
Oui, parce qu'il faut sûrement peut-être un peu de retouche.
Oui, c'est vrai.
Je pense, à mon avis. Et vous pouvez également réagir si vous le souhaitez. Par SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Zéro SMS aujourd'hui, hein, Carole.
On attend hein, les SMS. On m'avait dit qu'on nous écrirait.
Les gens
j'attends,
des jeunes.
J'attends, Elsa Rann, je ne vois rien venir.
Les gens des jeunes, ils ont bien raison. Et je leur souhaite un bon appétit. Surtout que nous allons parler du prix Nobel de médecine. Alors, aucune transition. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais il y a des moments d'égarement.
C'est appétissant
comme ça.
Ou
Pas du tout. Il a été attribué le prix Nobel de médecine lundi à deux Américains. Et j'adore, à chaque fois que je parle américain, donc c'est Hervé Halter, et tu as Charles Rices, et tu as un Britannique.
Quel accent.
Qui s'appelle Michael Houghton. Ils ont été récompensés pour la découverte du virus de l'hépatite C. En vérité, les trois hommes ont été récompensés sur différentes étapes majeures autour de la recherche sur ce virus de l'hépatite C. Tout commence dans le milieu des années 1970, lorsque Hervé Halter et son équipe démontre qu'il existe une troisième forme d'hépatite. À l'époque, les tests se répandent pour s'assurer que les dons de sang n'étaient contaminés ni par l'hépatite A, ni par l'hépatite B. Et pourtant, il y a certaines personnes transfusées qui restent malades. Et donc, le virologue en est certain, cela doit être dû à un autre type d'hépatite. Et donc, il y a le Britannique Michael Houghton qui travaille à l'époque pour une société pharmaceutique et il parvient à séquencer le génome du virus à partir de sang infecté chez un chimpanzé. Et si le Britannique est le seul à recevoir le Nobel cette année, les quatre hommes qui ont travaillé avec lui sont véritablement les découvreurs de l'hépatite C. Nous sommes en 1988. Enfin, il restait à prouver que c'était bien ce virus qui provoquait la maladie décrite par Hervé Halter. Et donc, c'est le virologue américain, le troisième, Charles Rices, qui reçoit donc le Nobel de médecine pour le fait de bien prouver qu'il s'agit bien de ce virus. Bravo à E3, l'article de Futura Science qui explique un petit peu l'histoire de l'hépatite C aborde aussi, on en parle souvent dans cette émission, il ne faut pas se leurrer derrière, il y a aussi les questions d'argent. Et en fait, il y a aussi des laboratoires pharmaceutiques qui sont derrière, parce qu'on va être dans une thérapie également, dans une recherche d'une solution thérapeutique de traitement. Et donc, il va y avoir les laboratoires qui vont être soutenus par ces chercheurs au départ, qui vont mettre en place des solutions qui vont coûter cher. Il va y avoir, notamment en Inde, le développement de génériques qui sont, eux, beaucoup moins chers. Donc derrière, il y a toute une histoire aussi intéressante que vous pouvez lire également sur certains sites internet pour mieux comprendre ce qui se passe derrière. Toute une histoire autour, justement, de l'argent derrière de ce que l'on fait dans une telle découverte. En France, il faut compter environ 23 000 euros en moyenne pour un traitement. C'est ce qu'explique Pascal Mélin, qui est le président de SOS Hépatite. La somme étant entièrement prise en charge par l'assurance maladie. C'est ce qu'on nous annonce. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce prix Nobel de médecine, c'est qu'on récompense la découverte d'un virus. En 2020, je ne sais pas, il y a peut-être un lien de cause à effet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on est au milieu des années 70 lorsqu'on détecte une troisième forme d'hépatite. On est en 1988 quand on découvre le génome. Et on est dans les années 90 quand on fait le lien entre... quand on confirme que ce virus est bien celui qui est responsable de cette troisième forme d'hépatite. Hépatite C, on ne s'est pas foulé pour savoir comment on l'a nommé. On va dire A, B et C pour la troisième, on est sur une plage d'une vingtaine d'années. Mmh. Voilà, ça rappelle ce que j'ai dit au départ, non ? Je parlais d'un certain temps de la science.
Enfin, certain temps, même si il a tendance à se réduire ce temps, mais en effet, c'est plusieurs années, ça ne peut jamais...
Il s'est réduit considérablement sur certaines technologies, sur le développement de l'informatique, de l'intelligence artificielle, mais ça ne résout pas tout. Soyons patients. Et Carole, tu vas nous parler et tu vas nous dire que finalement...
Finalement, c'est une grande découverte peut-être pour certains d'entre vous. Pour moi, c'était bien sûr une évidence. Hein. Il n'existe aucune preuve, on sort un petit peu des prix Nobel là, mais aucune preuve d'une différence entre le cerveau des femmes et des hommes. Parce que Jean-Noël, je ne te l'apprends pas, hein. Il existe de nombreux clichés qui impliquent des différences entre donc, les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux m'en citer ?
J'étais persuadé en fait que vous avez un chromosome supplémentaire qui vous permettait de gérer la vaisselle et de gérer plusieurs choses
ménage,
en même temps. Non,
c'est alors, pas ça. Alors justement, oui, ça c'est un des plus gros clichés, c'est que les hommes justement seraient incapables de faire deux choses en même temps. Et un autre aussi, on dit que les femmes n'ont aucun sens de l'orientation. Ça c'est, on l'entend pas mal.
Ça c'est évident.
Et pourtant, hein, leur cerveau en tout cas, aux hommes et aux femmes, eh bien ils sont identique, hein, on n'a jamais pu prouver une différence. Alors, cette idée que les cerveaux donc, entre hommes et femmes soient fondamentalement différents, ça relève d'une vieille croyance. Et il s'avère que cette dernière est infondée, puisque de nombreuses études sur le sujet n'ont jamais apporté de preuves concrètes. Un article publié par The Science Times, durant l'été, c'était le 10 août hein, de cette année, est revenu justement sur plusieurs de ses travaux pour faire un petit peu le point. Donc déjà, au cours du 19e siècle, des chercheurs ont exploré plusieurs pistes. Leur objectif, c'était distinguer les capacités cérébrales des hommes et des femmes. Parmi les premières hypothèses, eh bien nous retrouvons celle des Britanniques Alexander Bain et George John Romanes, respectivement philosophes et psychologues naturalistes. Alors, selon le duo, le cerveau des hommes est plus imposant que celui des femmes, ce qui expliquerait que les hommes soient plus intelligents. J'aime bien, c'est que le raccourci est facile chez eux. Plus tard, un autre philosophe britannique, John Stuart Mill, a réfuté cette théorie. L'intéressé a rappelé que le fondement de cette idée signifiait que des animaux tels que les baleines et les éléphants sont plus intelligents que les êtres humains. Donc forcément, ce n'était pas cohérent. L'hypothèse donc tombe à l'eau. Alors, d'autres chercheurs ont pensé que le volume et le poids du cerveau dans son ensemble n'avaient pas vraiment d'importance. En phrénologie, l'intérêt se situait dans la taille de certaines parties du cerveau, telles que le lobe frontal. En neuroanatomie, il est plutôt question du lobe pariétal. Néanmoins, nous avions là encore des explications assez vaseuses concernant une prétendue meilleure intelligence chez les hommes. Oui, parce qu'en fait, pareil. Le fait qu'on dise qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, bien sûr, ça dessert finalement, encore une fois, les femmes. On dit que les hommes sont plus intelligents. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est venu.
On voit tout l'intérêt de dire ça. Dans notre société un petit peu patriarcale, c'était évident.
Un petit peu beaucoup, bien sûr.
C'était évident.
Et c'est surtout que, voilà,
faut pas dire l'inverse.
Ça date, et oui, surtout à une époque où, en effet, c'était encore plus marqué. Alors, d'autres régions du cerveau ont fait l'objet de recherches, comme l'hypothalamus ou le corps calleux, mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Finalement, l'étude la plus pertinente sur le sujet, elle a été publiée donc récemment dans la revue PNAS en 2015. La neuroscientifique Daphna Joël et son équipe ont pratiqué des IRM sur plus de 1400 cerveaux. Donc dans quel but ? Eh bien, examiner l'activité d'une dizaine de régions spécifiques du cerveau. Selon les résultats, seulement entre 3 et 6% des IRM confirmaient les anciennes idées concernant le cerveau des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'il y avait des différences, hein, pas que ça impactait bien sûr l'intelligence. Ainsi, bien le genre n'a pas vraiment de lien avec les connexions neuronales. En réalité, ce qui a été découvert, c'est que l'apprentissage joue un rôle prédominant dans l'évolution de la structure de notre cerveau. Les autres leviers importants sont incarnés par des variations au niveau de la génétique et des hormones. Voilà. Donc, à bas les idées reçues.
J'aime bien quand tu profites du micro et que tu profites d'une étude scientifique sérieuse pour pouvoir confirmer.
Elle s'est affichée par hasard sur mon ordinateur. Je ne pouvais pas ne pas la relayer et ne pas la partager avec nos auditeurs.
C'est peut-être dû à certaines recherches antérieures et du coup...
Pas du tout. C'était en préparant l'émission. Non, vraiment, j'y suis pour rien.
On va parler du prix Nobel de physique. Et peut-être en se disant enfin, c'est un petit peu ce que se sont dit beaucoup de scientifiques et beaucoup de spécialistes de la relativité générale et de l'astrophysique relativiste.
Oula.
Enfin, quand ils ont appris que mardi, il y a eu l'attribution du prix Nobel de physique à Roger Penrose, sujet britannique né le 8 août 1931. Et pas tout jeune, toi, par rapport à notre Française nobélisée. 1931, donc ça lui fait 8 ans, il me semble, grosso modo. Il est donc britannique, mathématicien, physicien anglais de très grand talent. Certains le considèrent même tout simplement génial. Il a passé son doctorat de mathématiques en 1957 à l'université de Cambridge. Il est connu pour avoir révolutionné l'étude de la relativité générale dans les années 60 et 70. Les outils mathématiques qu'il a utilisés vont notamment permettre à Stephen Hawking de faire ses découvertes sur la théorie des trous noirs et en cosmologie. Le prix Nobel de physique lui a été attribué à Penrose pour la, je cite, « découverte que la formation des trous noirs est une prédiction robuste de la théorie générale de la relativité ». Prenez donc une feuille, un stylo, vous avez 4 heures, hein, vous allez me donner un petit peu... On ne va pas à ce micro expliquer, en plus à 12h44, on ne va pas vous imposer une explication de cette théorie générale de la relativité. Il faut juste savoir que Penrose a publié un article, un célèbre article en 1965, montrant que ces fameux objets étaient une prédiction incontournable de l'effondrement gravitationnel complet d'une étoile en relativité générale. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pionnier de la théorie des trous noirs et de la conscience quantique, Roger Penrose, obtient enfin le prix Nobel de physique 2020. Je dis enfin parce que voilà, c'était un petit peu l'interjection qui a été très souvent employée cette semaine et notamment depuis mardi. Il a la première moitié de ce prix Nobel, l'autre moitié étant attribuée pour les travaux d'observation qui ont été menés par Andrea Ghez et Reinhard Genzel, et notamment leur équipe, qui ont travaillé également sur ces domaines-là. Mais voilà, c'était pour les prix Nobel intéressant de voir qu'on récompense quelqu'un d'une autre génération, on va dire, et on récompense également d'autres scientifiques sur des technologies plus modernes et qui posent question aujourd'hui. Je trouve que c'est... Autant il y a des années où les prix Nobel ne sont pas nécessairement... On se dit oui, très bien, mais là je trouve que ça pose vraiment des vrais sujets, et je te dis que cette année 2020 est extraordinaire, Carole, mais tu ne m'écoutes jamais.
Oui, moi j'ai quand même assez hâte de découvrir l'année 2021, mais c'est un avis personnel, même si bien sûr 2020 va nous faire parler à mon avis encore très longtemps en termes de découvertes scientifiques après pour la suite.
De quoi souhaites-tu nous parler, Carole ?
C'est surtout peut-être toi qui souhaites nous parler de l'actualité internationale. Avant, je rappellerai juste, pour au cas où des auditeurs nous rejoignent seulement maintenant, justement de la fête de la science à nouveau et de toutes les activités gratuites sur fêtedelascience.fr. Et c'est notamment organisé donc aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc allez faire un tour du 2 au 12 octobre sur le site fêtedelascience.fr.
Sais-tu, Carole, où est née la fête de la science, qui est bien sûr une manifestation nationale créée par, organisée par le ministère?
Non.
Tu ne sais pas du tout.
Je préfère te laisser nous le dire.
C'est né ici à
Compiègne.
Ici à l'Université de Technologie de Compiègne. Il y a eu une première expérimentation avec cette idée de justement faire rencontrer le public et surtout d'ouvrir les portes et de faire en sorte que le public vienne au sein des laboratoires de l'Université de Technologie de Compiègne. Nous sommes, alors je ne sais plus en quelle année, j'ai 91 en tête, mais je ne suis pas totalement certain, il me semble. Et l'année d'après, c'est, comme ça a été une vraie réussite, le ministère a souhaité ensuite pérenniser cette manifestation, faire une envergure nationale. Et donc, alors ça a changé de date, hein, c'était des fois en juin, ça a été en novembre, là c'est en octobre depuis un certain temps. Mais effectivement, profiter de ce week-end, hein, ça dure encore ce week-end, c'était pendant toute la semaine et ça dure encore ce week-end, pour soit visiter virtuellement des fêtes de la science, comme c'est le cas pour l'UTC et pour l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale de Compiègne, mais peut-être aussi des vrais... comment dire, des chapiteaux d'accueil, enfin voilà, il y a des choses qui existent, renseignez-vous. Tu voulais que l'on parle de l'international.
Oui, je voulais qu'on ait le temps d'aborder ce sujet.
Je trouve, franchement, l'actualité est quand même extraordinaire. Et il y a des fois, je ne sais pas, des signes du destin qui sont aussi intéressants. On a quand même un président américain, on pense ce que l'on veut, et quelque part dans cette émission, ce n'est pas le sujet. Il est président des États-Unis d'Amérique. Il a une attitude plutôt, on va dire, un petit peu désinvolte vis-à-vis d'une pandémie qui se développe sur l'ensemble du globe et qui touche à un moment donné les États-Unis, bien évidemment. Je ne sais plus aujourd'hui précisément le nombre de morts, je crois qu'on a dépassé les 200 000, il me semble.
Oui.
Il me semble qu'on est à peu près dans ça. Eh bien, ce président américain, il est en pleine campagne électorale pour sa réélection. Il déteste paraître faible, voire même malade. Et bien pourtant, il a été testé positif à la Covid-19.
Ce qui devait arriver arriva.
Le week-end dernier. En fait, il y a eu plusieurs articles, et les articles utilisent très souvent le conditionnel, parce que finalement, on voit des choses, mais on ne sait pas tout. Il présenterait des signes modérés donc, de cette Covid-19, c'est-à-dire fièvre et encombrement des voies respiratoires notamment. Il a été transféré quelques jours au centre médical des forces armées des États-Unis et il a bénéficié d'un traitement expérimental. Et depuis, il est revenu à la Maison-Blanche. Il a fait une vidéo extraordinaire.
En hélicoptère, on aurait dit un film,
j'ai cru que c'était un film.
Armageddon, mais version 2020.
Je me suis dit, mais Bruce Willis a des cheveux maintenant. Ah non, c'est Donald Trump. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est le traitement qui a été conféré à, ce président. Je veux dire, on se fout de savoir que c'est Donald Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique. On lui confère un traitement qui est contraire à toute éthique médicale. Il n'y a aucune conclusion qui pourrait être tirée concernant l'efficacité de ce protocole, étant donné qu'il est le seul à en bénéficier. Et puis, on a un peu cette espèce d'impression que son équipe médicale tente de soigner le président à l'aide de données totalement préliminaires et de preuves totalement mécanistes. Rappelons que les essais cliniques sont habilités à nous donner accès à une connaissance médicale. Et que du coup, il y a eu un article récent paru dans la revue Science qui relate en détail ce que nous savons actuellement sur le traitement du président. Et donc, on apprend que c'est une combinaison de deux anticorps de synthèse qui est censée empêcher la fixation d'une protéine qui se trouve, on va dire, sur la surface du coronavirus. Et donc, cette protéine, elle a un récepteur qui va être au niveau des cellules du corps humain. Et donc, du coup, on empêche cette fixation du virus. Donc, les expériences qui démontrent l'efficacité de ce cocktail un petit peu d'anticorps concernent les animaux jusqu'à maintenant. Il semble que ce traitement puisse réduire la charge virale et notamment la sévérité de la maladie chez l'animal. Et l'entreprise qui produit ce cocktail d'anticorps a présenté la semaine dernière des données préliminaires chez l'homme. Pour l'instant, il n'y a aucun essai clinique de phase 3, donc en phase de grande envergure, on va dire, qui n'a été publié dans la littérature scientifique. De plus, ces mêmes données préliminaires concernent des personnes asymptomatiques pour la plupart et quelques personnes avec une affection modérée. Et enfin, quand on regarde un petit peu plus les données, on constate que le dosage utilisé était de 2,4 grammes et on apprend que Donald Trump, lui, a une perfusion de 8 grammes, donc presque le triple.
On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, non mais c'est incroyable.
Parce que lui, il a demandé un peu plus.
Parce que lui, il a besoin d'un peu plus, peut-être, en rapport au volume.
L'utilisation de ces anticorps ne peut normalement se faire qu'en participant à un essai clinique où le patient reçoit de façon aléatoire le traitement à l'étude et un placebo. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça. ce n'est que dans le cadre de traitements compassionnels qu'on peut envisager de donner un traitement en dehors d'un essai clinique. Et ce qui étonne, c'est que l'état de santé de Donald Trump n'incite pas à une certaine compassion, parce qu'on n'avait quand même franchement pas l'impression qu'il était à l'agonie. Je veux dire, il est parti à l'hôpital en marchant, en montant dans son,
oui,
dans son hélicoptère. Il a tweeté à l'hôpital, il revient, musique grandiose, il se met sur le perron de la Maison Blanche, il enlève son masque, et puis là, cet hélicoptère magnifique qui prend son envol avec une lumière et un coucher de soleil magnifique. Ça n'incite pas à la compassion. Donc ça ne justifie pas l'emploi de ce traitement totalement expérimental. Alors, on apprend que, par la suite, il a reçu du Remdesivir. Ça aussi, on entend souvent parler, c'est ce fameux traitement d'une firme pharmaceutique. Ce traitement a montré une efficacité extrêmement limitée, avec un service médical rendu jugé trop faible, notamment par la Haute Autorité de Santé. Et si bien que cette décision n'a pas permis de prétendre à une autorisation de mise sur le marché et de remboursement par la Sécurité sociale en France. Donc, en fait, ce médicament, en France, n'a aucune valeur et aucune utilité. Mais peut-être qu'aux États-Unis, ça devrait le faire. Bon, je n'en sais rien. C'est le seul traitement que Donald Trump ait reçu qui a apporté la preuve de son efficacité chez les patients atteints de Covid-19 en phase sévère de la maladie. Et dès lors, on se dit que soit Donald Trump, il a connu une phase très sévère qui justifierait l'emploi de ça, soit il est encore dans une situation où on va se dire « Bon, on va le tester, c'est totalement au hasard, puis on va voir ce que ça va donner ». Pourquoi pas, après tout, il est cobaye, en fait, dans cette histoire. D'autant que, cette semaine, il y a eu, je crois qu'il a été interviewé à la radio, il me semble, américaine, et on le sent pris, il est en train de tousser.
Oui, il est totalement, il tousse.
Oui. Il est pas... il a son âge aussi, cet homme. Bref, il y a quand même une ambiance un peu particulière au niveau de la communauté scientifique et médicale internationale. Parce qu'on se demande que... Enfin, on a un peu l'impression que l'équipe médicale du président des États-Unis d'Amérique, j'insiste bien sur président des États-Unis d'Amérique, il a vraiment pris tout et n'importe quoi pour essayer de se soigner. C'est quand même assez extraordinaire. Et on apprend qu'il a pris également, dans son protocole de soins, il a pris du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, qui est un antihistaminique, de la mélatonine, qui est une hormone, et également de l'aspirine. Et puis, il a peut-être bu aussi un verre de citron, et je ne sais quoi. Enfin, on est dans un truc totalement extraordinaire.
C'est vrai que ça paraît assez dingue. Ouais.
Et la question que se posent certains articles, c'est « Et l'hydroxychloroquine ?»
Oui, bah oui.
Allez, genre, attends, on nous bassine avec ça depuis le mois de mars. Eh bien, non.
Il n'en a donc... Il a tout pris, sauf ça, au final.
En fait, ça n'est pas mentionné dans son traitement. Mmh. Sauf qu'il y a un moment, enfin, je crois qu'on était plutôt au mois de mai ou au mois de juin, il se vantait d'en prendre.
Oui.
Sauf que ce médicament n'est pas, de ce que l'on a compris, un préventif, mais plutôt un médicament que l'on doit prendre au début de l'infection.
C'est ce que disaient en tout cas les personnes qui défendaient ce traitement-là.
Ce fameux professeur marseillais,
oui,
dont on n'évoquera pas le nom ici.
Non, non, non.
Mais voilà, c'est une situation... Moi, je trouve c'est extraordinaire. T'as un président des États-Unis d'Amérique. On pense ce que l'on veut du personnage, c'est pas le sujet. Il est un cobaye. On teste celui... Il a un certain âge, il a un certain embonpoint. C'est une personne considérée à risque dans ce cas-là. On lui fait prendre des médicaments, une espèce de cocktail extraordinaire. C'est inadmissible. Ben je n'arrive pas à comprendre. On n'accepterait pas. Enfin, on peut légitimement se dire qu'il faut protéger les animaux en laboratoire pour éviter de tester ça. Et alors, le président des États-Unis d'Amérique, quel qu'il soit, on va tester sur lui ce genre de truc. Alors, la question, c'est finalement. Énormément de conditionnels. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça ?
C'est ce que j'allais dire. Voilà, déjà.
Quel est son véritable état de santé ?
Et qu'est-ce qu'on nous a donné comme information par rapport à la réalité, voilà, de son état de santé, de ce qu'on lui a réellement donné ?
Et pourquoi, du coup, on se vante, on diffuse ce genre d'informations aussi ? C'est pas anodin. Donc, il y a énormément de questions. Alors, Carole, je n'ai absolument aucune réponse. Je veux juste sensibiliser les auditeurs sur le fait que. Il faut prendre, enfin, je le dis depuis je ne sais plus combien de temps maintenant, énormément de recul avec la situation actuelle. Il faut prendre du temps, il faut prendre du recul. tant qu'on n'admettra pas ça, tant qu'on ne voudra pas le faire, eh bien, on tombera dans toutes sortes de pièges. On tombera sur des conspirations. On entend et on lit des choses, mais absolument folles, sur les réseaux sociaux et aussi sur des plateaux de télévision. Il ne faut pas l'oublier. Il faut arrêter de mettre...
Attention, il faut bien recouper les informations. Il y a aussi des choses qui sont dites en ce moment et on se rendra compte dans quelques mois que c'était faux, parce que c'est aussi ça, la science. Hein, c'est se rendre compte qu'avec des nouvelles connaissances, on évolue et on change d'avis. Et on va comprendre de mieux en mieux, en tout cas, comment lutter contre ce virus. Mais c'est vrai que, en tout cas, cette séquence de communication autour de l'état de santé du président, elle reste quand même assez hallucinante. Ce ne serait jamais passé en France comme ça, je pense que ça, c'est sûr et certain. On verra. Ce sera intéressant quand on en saura plus. Moi, j'ajouterais qu'en fait, on pourrait souhaiter quelque part, alors avec ce que tu dis, ça va faire peut-être un peu bizarre, mais dans un certain sens, c'est vrai. On peut quand même souhaiter à tout Américain qui soit à risque et vraiment touché par le virus, en tout cas d'être pris en charge comme Donald Trump. Alors, pas dans le sens, c'est pour ça, pas dans le sens cobaye, mais dans le sens, c'est-à-dire vraiment, aux petits soins et pouvoir bénéficier en tout cas des plus grandes avancées, et je mets des guillemets, dans le domaine, parce que c'est quand même ça, il y a quand même aux États-Unis plein de gens qui sont complètement en dehors du système de santé. Hein, donc,
Mais ça pose des vraies questions, et là on dépasse le cadre de notre émission parce qu'on passe le cadre purement scientifique et médical. Mais il y a des vraies questions derrière qu'il va falloir évoquer à un moment ou à un autre. Sauf que pour l'instant, on ne l'évoque pas parce qu'on est tellement dans l'instantanéité et dans le court-termisme qu'on ne se rend pas compte de ce que sont en train de vivre les gens d'une façon générale. Il y aura des impacts sur la santé, sur le mental, sur la société, le travail, sur l'économie, bien évidemment. Aujourd'hui, on parle d'économie, heureusement j'allais dire, et puis c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a parfois quelques éléments, quelques reportages ou autres qui vont nous parler d'un impact global sur l'humain, je veux dire, au sens large. Mais pour l'instant, finalement, il y a très peu d'articles. C'est normal. On n'a pas le recul. Donc, on ne va pas dire dans cette émission, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut prendre du recul, il est normal que ce genre d'études ne soit pas encore publié. Mais on fera dans cette émission, j'en suis certain, dans quelques années, une émission spéciale 2020 pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé. Je veux dire,
ça, c'est sûr.
Il faut prendre du recul. Il faut avoir aussi parfois peut-être un minimum de bon sens. Et malgré ce que l'on pense de cette ancienne porte-parole du gouvernement, elle a dit pas mal de conneries, il faut quand même l'avouer. Elle avait dit quelque chose autour de cette culture scientifique que je trouvais quelque part assez juste. Et que du coup, on est dans une société où finalement, on n'a pas l'impression qu'on maîtrise parfaitement le sujet scientifique, où on a des a priori qui vont tomber très facilement dans le complotisme ou autre. Enfin, j'ai lu, je trouve ça formidable, je vais te le dire à ce micro, on parle d'un vaccin éventuel. Alors ça, c'est pareil, on n'a pas fait une émission sur les vaccins, mais on parle d'un vaccin. Et ce que l'on lit, c'est qu'on est en train d'associer plein de choses. On va pouvoir inoculer un vaccin avec à l'intérieur un composé qui va se déclencher, qui va pouvoir être activé grâce aux antennes 5G qu'on est en train de t'installer. Tu es dans une c'est ce que tu entends et c'est ce que tu lis. Et du coup, c'est un peu un cas extrême, je suis d'accord. Malheureusement, je suis persuadé que certains sont totalement convaincus de ça. Qu'est-ce que tu fais ?
C'est vrai que c'est compliqué, il faut diffuser. Je pense qu'il faut essayer de vulgariser la science, de diffuser, de discuter, de montrer aux gens que non, il n'y a pas de... de montrer les fonctionnements des choses, de les intéresser en fait.
Le seul remède, je pense, c'est d'écouter Biotine tous les samedis sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h. Carole, c'est la fin de cette émission. Nous avons gagné un auditeur particulièrement fan de ta voix. Il signe par un M, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, il nous remercie pour cette émission intéressante et sympathique. Et fort heureusement, je n'ai pas dit de choses désagréables encore ou à connotation un peu particulière. Ce que
attends la semaine prochaine.
Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, oui, effectivement, je crois que ta maman était à l'écoute. Donc heureusement que je n'ai pas
dit
de bêtises.
Je te remercie.
Merci à vous tous, merci à Mathéo qui va nous permettre d'avoir une émission diffusée
en vidéo, en
replay sur le site de Graphite, graphite.net sur internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent. Merci Carole, on se retrouve samedi prochain.
Merci Jean-Noël, à samedi.
Et on continuera de parler des prix Nobel, ou plutôt des prix IG Nobel en hommage à PJ.
Ah, les meilleurs. PJ, si tu nous écoutes, oui.
L'émission de samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite. Merci, bonne journée à tous.